Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui parle de la résurrection. On est à Pâques. Mais la résurrection, c'est pas juste un moment précis dans l'histoire où Dieu a ramené des morts, Jésus, mais c'est vraiment une manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui donne la vie aux gens. C'est dès le début dans Genèse, on a vu qu'il y avait la création et puis il y avait l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux et de ce que Dieu avait créé. Et puis Dieu a dit, et par la puissance de l'Esprit de Dieu, il y a eu création, il y a eu la vie. Et dans le livre de Deutéronome, au verset 15, déjà on peut commencer, il nous est dit qu'il est proposé à chaque être humain, « Voici, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et quelques versets plus loin, c'est repris au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Donc toujours en nous cette idée de la terre promise. C'est une idée qui est assez vieille déjà, mais chacun de nous, on a eu cette pensée qu'il y avait une terre promise. Il y avait quelque chose qui nous attend, quelque chose qui est devant nous, quelque chose vers quoi on veut se tourner. Et on a vu ici aussi qu'il y a des choses qui font que notre vie et la prolongation de nos jours sont impliquées, impactées, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, au XXIe siècle que nous sommes, beaucoup de gens meurent. Ils sont persécutés, ils souffrent à cause de leur foi. Et nous, on a le privilège de vivre dans un pays où, soi-disant, la liberté de croyance est respectée. Et pourtant, on sait que pour notre propre vie, on a besoin de se battre. On a besoin de se battre et de vivre par la foi, parce que le juste vivra par sa foi. Et on réalise aussi qu'il y a une grande différence entre ce que nous attendons, ce que nous espérons, ce que Jésus a promis, je suis venu afin de vous donner la vie en abondance, et la réalité de beaucoup de personnes. Déjà dans le monde entier, mais même parmi les chrétiens, parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup qui ne vivent pas ce côté de l'abondance. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous un message, j'ai donné le titre « Penser, respirer et vivre la vie de résurrection ». Donc il y aura trois aspects, penser, respirer et vivre. Quelque chose de très simple que on comprend dans le naturel et on comprendra aussi dans le spirituel. La fête de Pâques, c'est un passage. C'est ça que ça veut dire, Pâques. Passage. Passage de la mort à la vie. Parce que qu'est-ce que vivait le peuple d'Israël? Vivait l'esclavage. L'esclavage, il n'y a rien à attendre de cette vie pour un esclave. Il attend juste la mort, c'est tout. Et ça, c'est pas une vie, c'est pas une espérance, c'est rien du tout. Donc Dieu a montré par là son plan pour son peuple, c'était de les faire sortir de l'esclavage, qu'ils vivent ce passage et qu'ils découvrent la vraie vie telle qu'il les avait prévue pour eux. Donc de l'Égypte, on va vers Canaan, c'est le pays de la promesse. La Bible nous dit c'est là que coule le lait, le miel, l'abondance. Et on se rend compte que dans le texte du peuple d'Israël, même en ayant ses promesses, même en ayant tout ce que Dieu leur a dit, au fur et à mesure du chemin, quelques-uns ont eu des regrets. Ils auraient même voulu retourner un moment en Égypte. Oh, on se rappelle, c'était bien. Ils auraient voulu retourner. D'autres ont murmuré dans le désert, ne sont jamais rentrés dans le pays promis. Ils sont morts dans le désert. D'autres encore, ils ont préféré à un moment donné, ils étaient devant le Jourdain, sur le point de rentrer, ils ont dit « Non, on préfère rester de ce côté du Jourdain. » Et donc, très peu sont rentrés dans le pays de Canaan. Et d'ailleurs, sur toute la génération des hommes de guerre qui ont quitté l'Égypte, on estime d'après le dénombrement qu'il y avait à peu près 600 000 hommes. Il y en a deux qui sont rentrés dans le pays de la promesse. Deux sur 600 000, sans parler du reste du peuple. Donc, On peut se dire, c'est quand même dur, quoi, pour tout ce que Dieu avait prévu pour son peuple. Parce que pour entrer dans le pays, il faut changer de mentalité. Et ce peuple était tellement imprégné par la mentalité d'esclaves qu'ils n'ont pas pu se dégager et rentrer dans le pays de la promesse. Et on voit aussi le dessein de Dieu quand il a pris Moïse dès son plus jeune âge, qu'il l'a fait sortir du milieu du peuple pour être d'abord dans un premier temps éduqué auprès des meilleurs, peut dire, éducateurs qui soient. C'était les princes d'Égypte, c'était le top, le summum de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et il a appris à avoir une mentalité de prince. Ensuite, il a dû encore une fois avoir un renouvellement de l'intelligence par un dessein de Dieu pour apprendre maintenant la mentalité du royaume de Dieu, et puis seulement il était capable d'emmener le peuple et de le faire sortir. Donc pour nous aussi, pour rentrer dans le pays que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, vous le nommez comme vous voulez, ce pays, c'est la chose que vous attendez, c'est un objectif que vous avez, c'est quelque chose que vous voudriez voir se réaliser. D'abord, en général, vous avez besoin de changer de mentalité. Parce que vous ne l'avez jamais expérimenté, vous pensez peut-être, comme tout le monde, que c'est impossible. C'est mon premier point, pensée résurrection. J'ai fait cette expérience il y a quelques années, lorsque nous avons fait un petit voyage en Irlande, et nous avons visité notre fille qui était là-bas, et on est arrivé à ce dimanche de Pâques, et il y avait le sujet, c'était Resurrection Thinking, parce que là-bas ils disent thinking en irlandais, et donc ça m'est resté, acquérir cette pensée de la résurrection, être imprégné de cette pensée de résurrection. Vous voyez, c'est resté encore des années après. Et donc le proverbe 23:7 nous dit l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Les pensées qui dominent votre âme, pas une pensée qui vous traverse l'esprit comme on dit, mais les pensées de votre âme dominent sur votre vie et font que ce que vous allez devenir, ce sera le résultat. Donc, si vous n'avez pas la pensée de la résurrection, si vous n'êtes pas entraîné à penser comme Dieu pense, vous allez toujours trouver des obstacles. Et dans Ésaïe 55, il y a un passage qui est assez connu dans les milieux chrétiens. Il est dit que nous n'avons pas la pensée de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Voilà, c'est Dieu qui parle, il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, l'interprétation classique, religieuse, habituelle, c'est « Dieu est très loin, ses pensées sont très différentes de nous, et elles sont incompréhensibles, parce que nos pensées sont différentes. » Donc, ça a donné dans le langage populaire, les voies de Dieu sont mystérieuses et impénétrables. Et il y a comme une espèce de séparation, alors. Il est là-bas, il a des pensées, je suis là, j'ai d'autres pensées, et je ne peux pas comprendre comment lui, il voit les choses, comment il pense. Et souvent, les personnes restent avec cette espèce de statu quo, on reste dans cette position. Il n'y a que quelques privilégiés, peut-être prêtres ou personnes particulièrement douées, qui sont alors capables d'interpréter les pensées de Dieu. Mais nous découvrons dans la Bible que c'est pas du tout ce que Dieu voulait. Et qu'au contraire, il y a un renouvellement possible des pensées qui fait qu'on commence à avoir les pensées de Dieu. Donc imaginez, pour illustrer, un enfant qui serait pauvre, il a toujours vécu dans des privations, sa famille meurt, il reste orphelin et il se fait adopter par la meilleure famille que vous puissiez imaginer. Mais pour apprendre à vivre dans cette famille, il faut qu'il adopte la nouvelle façon de vivre. Parce que s'il continue de se comporter comme il l'a toujours fait, à chaque occasion il dira « je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, c'est pas possible ». Alors que maintenant, il y a un avenir totalement différent qui s'ouvre à lui. Et bien, nous sommes exactement dans la même situation. Avant, on est né d'une certaine façon, et cette rencontre avec Dieu et l'adoption, parce que la Bible dit que nous avons été adoptés, nous fait maintenant rentrer dans une dimension totalement différente. Et ça, on le rencontre dans Galates chapitre 4, Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. J'ai déjà plusieurs fois utilisé cette illustration. Dans le contexte de l'Antiquité, un enfant qui était destiné à hériter, il pouvait recevoir plus tard la gestion, l'administration de tout le domaine de son père. Et il pouvait avoir de grandes richesses, mais il y avait un moment dans sa vie où il n'était pas encore reconnu comme héritier. Il n'était pas encore réellement le fils. Il devait d'abord passer par un apprentissage. Donc il avait des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le père. Et le père décidait en disant « Maintenant, mon fils va rentrer dans sa majorité ». Ce n'était pas une majorité à 18 ans ou à 21 ans ou que sais-je. C'était une majorité que le père décidait. Il disait « Maintenant, mon fils a subi tous les enseignements, la formation, tout l'entraînement nécessaire pour qu'il soit capable. » Alors, le fait qu'il soit capable était déterminé à un moment précis et il n'était donc plus comme un esclave, mais il pouvait maintenant s'occuper du domaine, gérer ce qu'il avait reçu de la part de son père. Et c'est ce que l'apôtre Paul illustre en disant dans la suite de Galates au verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsqu'on était enfant, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » L'adoption. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en illustration, l'adoption. On a été adopté. Et voilà ce que ça produit, cette adoption en nous. Verset 6. « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es héritier de quoi ? Ben de tout. Tu as tout hérité. Mais si tu n'en es pas capable, si tu ne peux pas le concevoir, ça ne te servira à rien parce que tu ne pourras pas rentrer dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Mais nous avons des exemples. L'apôtre Paul, encore lui, puisqu'il a eu beaucoup de choses par révélation, des choses que le Saint-Esprit lui a montrées, c'est lui qui a déclaré dans 1 Corinthiens 2, verset 15, il dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Quand dans le livre de Job, vous voyez ce personnage rencontrer toutes sortes de difficultés, de malheurs, de catastrophes, de maladies, à un moment donné, il conteste avec Dieu. Il dit « Mais quel est mon péché ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout cela m'arrive ?» Et Dieu l'interpelle en disant « Mais est-ce que c'est toi qui as été mon conseiller ? Est-ce que c'est toi qui vas m'expliquer, me dire ce qui se passe ?» Et Job dit « Je parlais de choses que j'ignorais, mais tout à coup j'ai eu la révélation de qui était Dieu. » Et de la même façon, des fois les personnes que nous sommes ou que nous avons été, on a jugé les choses du point de vue naturel, charnel. On a pensé avoir certaines explications. Mais quand l'Esprit de Dieu, celui qui est en nous et qui nous conduit à l'adoption, nous montre les choses, il nous est dit « Nous pouvons recevoir la pensée de Christ. » Donc nous pouvons penser cette façon où la résurrection se manifeste. Dans 1 Corinthiens 13 est très connu, en général on utilise quelques versets à tous les mariages quasiment, en parlant de l'amour et des différentes qualités de quelqu'un qui est dans l'amour. L'amour, au verset 4, est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal et il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et un peu plus loin, au verset 11, l'apôtre Paul nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Enfin, je me suis dit, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans tout à coup ? On parle de l'amour, on exalte cette qualité que Dieu a déposée en nous, et tout à coup il nous parle de l'enfant et de... des souvenirs d'autrefois de l'apôtre Paul. En fait, il essaie d'expliquer quelque chose qui est très important pour nous. On a parlé de la mentalité qu'on peut avoir avant, après. Esclave, libre, enfant immature et fils qui reçoit maintenant la majorité par son père. Eh bien, nous sommes dans cette réalité. Vous ne pouvez pas avoir la pensée de résurrection si vous n'avez pas un minimum de maturité. Même l'amour d'un enfant est immature. C'est pas une insulte de dire ça. Mais l'amour d'un enfant, au début de sa vie, est conditionné par ce qu'il reçoit. Il ne manifeste pas spontanément, il n'est pas rempli de l'amour inconditionnel tel qu'il est décrit ici dans 1 Corinthiens 13. Il réagit. On lui prodigue des soins, on s'occupe bien de lui, on lui manifeste de l'affection, et à tout cela, il répond. En grandissant, on pourrait imaginer que cet amour se développe, mais ce n'est même pas toujours le cas. Parce que en grandissant, un enfant, et nous avons tous été à un moment ou un autre un enfant, peut aussi manifester de l'ingratitude et toutes sortes de comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc on n'arrive pas naturellement à une manifestation de l'amour de Dieu qui serait mature. On n'y arrive pas naturellement parce que c'est spirituel. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 13 est dans un contexte de don de l'esprit, de manifestation spirituelle. 1 Corinthiens 12 nous montre toutes les manifestations de l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 13 nous dit comment on peut exercer toutes ces choses. Et elle nous montre là au milieu de « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant ». Et donc, nous aussi, on parlait d'une certaine façon, on pensait d'une certaine façon, mais ce qui est important, c'est que on réalise que ce que disait Paul dans la suite, « Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » En fait, disparaître, quel est le côté négatif? Le côté négatif, c'est les enfantillages. Ce qu'on pardonne à un petit, c'est normal dans son état. Mais quand quelqu'un a 20, 30 ans, 40 ans, et qui se comporte de certaines façons, on va dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on est appelé à devenir mature, et la Bible nous dit que la perfection, c'est en fait la maturité. Parce que la perfection, c'est pas un état où maintenant il y a zéro défaut, zéro faute, zéro... La perfection, c'est vouloir toujours aller vers quelque chose qui évolue. Il y a un seul qui était parfait, c'est Jésus, Dieu est parfait, et nous, on y tend, on se laisse transformer par Dieu. Donc, pensez résurrection, changez votre mentalité, votre façon de voir dans Parole vivante, dans Romains 12, on a une très belle description aussi de comment changer notre mentalité. Au verset 2, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. » Ne copiez pas les modes, les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Voyez de nouveau ce mot « maturité ». La deuxième pensée, justement, pensée résurrection, respirer la résurrection. Pourquoi je dis respirer la résurrection? En fait, dans Actes chapitre 9 et verset 1, on a une description de Paul quand il était encore Saul de Tarse, quand il était encore en train de pourchasser les chrétiens partout où il pouvait. Et il y a une description assez effrayante de lui. Il nous est dit dans Actes chapitre 9 et verset 1, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, » voilà ce qu'il fait, il va chez le souverain sacrificateur, mais surtout cet aspect, il était en train de respirer la menace et le meurtre. Respirer la menace et le meurtre. Vous imaginez? Je sais pas si ça va vous parler, mais si vous avez quelqu'un qui a bu un petit peu trop d'alcool, il y a une partie de l'alcool qui est dégagée par les poumons. Et vous pouvez vous rendre compte que c'est une personne qui a bu pas mal, voire trop, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de lui. Et de la même façon, quand on est imprégné de quelque chose, ça se dégage de nous. Saul de Tarse, à ce moment-là de sa vie, était tellement rempli de pensées, de meurtres, de menaces, de haine contre ses disciples de Jésus de Nazareth, qu'il nous est dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va toujours se dire que si cette chose est possible, si le diable l'a fait, c'est certainement une contrefaçon de ce que Dieu veut faire. Si cette chose est possible, que quelqu'un respire la menace et le meurtre, c'est aussi possible pour nous de pouvoir respirer l'atmosphère céleste. Et ça devient alors une réalité spirituelle que vous pouvez expérimenter. On peut respirer l'atmosphère céleste. Des fois, on a toutes sortes d'infos, on ne sait même plus vraiment d'où ça vient, on ne peut pas toujours tout contrôler ou vérifier. Mais donc, j'avais lu quelque part, il n'y a pas trop longtemps, qu'au niveau de notre nez, il était capable d'identifier environ 50 000 parfums différents. Donc, voilà, c'est assez impressionnant, quand, même si vous avez un gros nez ou un petit nez, mais imaginez qu'il puisse y avoir cette capacité d'imaginer tellement de parfums ou d'odeurs différents. Et nous avons été créés, la Bible nous dit, par Dieu, on est des créatures merveilleuses dans le sens qu'il y a tellement de choses qui existent pour que ce corps fonctionne. Et donc, respirer dans le naturel, nous respirons toutes sortes de choses, des fois c'est la pollution, les gaz d'échappement, des fois c'est des mauvaises odeurs, des fois c'est des parfums. Mais pour nous aussi, ce qui existe dans le naturel nous parle de ce qui existe dans le spirituel. On peut respirer une atmosphère céleste. On se rend même compte, des fois, quand on rentre quelque part, on se dit, ouf, c'est lourd, là, c'est tendu, ou alors, à l'inverse, ah, c'est agréable, il y a une bonne atmosphère, on parle de tout ça. Donc, pour moi, j'aimerais dire que la prière, c'est la respiration de l'âme. C'est comme ça que on vit avec Dieu, on inspire la vie de Dieu. Vous pouvez faire des exercices de respiration. Faites cette respiration abdominale profonde qui est tellement importante pour nous. Il y a des choses qu'on doit expirer. La Bible parle dans la prière de la confession. Déclarer certaines choses comme Dieu les déclare. C'est dans Philippiens 4, au verset 6. Voilà quelques conseils. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est cette chose que nous devons pratiquer quotidiennement, comme on ferait des exercices de respiration, pour de nouveau pouvoir se détendre, pour de nouveau pouvoir se renouveler. L'expiration, c'est confesser, déclarer les choses qui ne vont pas dans notre vie. C'est se décharger, c'est refuser de s'inquiéter. Et en même temps aussi, les choses bonnes qu'on inspire de Dieu, sa présence, avec des actions de grâce, le remercier d'être là, remercier parce que il y a quelque chose qui est prévu pour nous. Expirer, c'est essentiel parce que il y a des choses qui nous asphyxient, il y a des peurs, il y a des frustrations, des soucis, tout cela doit sortir. Il ne faut pas que ça demeure. Et donc, on peut avoir cette respiration de la résurrection qui permet que notre corps soit de nouveau vivifié. Si on vit sans pouvoir bien respirer, ben, au bout d'un moment, notre corps en subit des conséquences. Si vous avez des gens qui ont été sauvés in extremis, d'un incendie, des choses comme ça, des accidentés, tout de suite on leur applique l'oxygène. Tout de suite on essaie de que tout cela puisse reprendre vie. Il est aussi dit des prières et des supplications. Il y a des fois des situations où une petite prière superficielle ne suffit pas. Il faut des supplications. Il faut qu'au fond de votre âme, vous puissiez dire à Dieu vraiment tout ce qui ne va pas. Et supplication, ce n'est pas pour supplier Dieu. Plus vous allez pleurnicher et insister, finalement, il va quand même céder. Ce n'est pas comme ça. C'est la détermination au plus profond de vous. Quand vous suppliez, ça veut dire que vous voulez vraiment quelque chose. Si vous demandez, est-ce que je peux avoir ci? Non? Bon, tant pis. Hop, et vous repartez. Mais si vous avez un vrai besoin, vous allez supplier jusqu'à ce que vous l'ayez. Donc, la supplication a sa place aussi dans notre vie spirituelle. Quelqu'un a supplié aussi, on est dans un contexte de Pâques, pour penser à Gethsémané. Jésus a supplié au fond de son âme, il n'a pas désiré, il n'était pas candidat pour la souffrance masochiste, il n'a pas dit « oui, oui, la croix, j'en rêve depuis longtemps ». Il a supplié Dieu qui, si cette coupe peut s'éloigner, il avait dit « si, s'il y a une autre façon ». Et c'était pas possible. C'était la seule façon. Et donc il a dit, alors, je l'accepte. Mais Gethsémané était un exemple de supplication. Des fois, on chante aussi ce chant et dit, c'est l'air que je respire. Sa sainte présence, cette atmosphère céleste. Vous pouvez vous la créer quand vous voulez, dans votre rencontre avec Dieu et où vous voulez. Il est, comme disait quelqu'un, il est à distance de la prière. Distance de la prière, et je passe à mon troisième point, vivre la résurrection. Qu'est-ce qui nous empêche la plupart du temps de vivre la résurrection? C'est le temps. On ne prend pas le temps pour permettre à la vie de résurrection de se manifester. Quand je parlais de respirer, Jésus, à un moment donné, juste après sa résurrection, il nous a dit, il souffla sur les disciples, et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a envoyé un souffle, il pouvait maintenant respirer ce souffle de Dieu. Au début, quand Dieu a formé Adam et Ève, quand il a formé l'être humain, il nous a dit, il a soufflé, un souffle de vie, et cette personne est devenue une âme vivante. Notre version dit, un esprit qui parle. Et donc, vivre la résurrection, ben, ça prend du temps. Comme de prendre le temps d'un bain. Si vous voulez vous laver, vous pouvez faire une douche. C'est efficace. Mais en général, on fait une douche parce que c'est plus rapide. N'est-ce pas vrai? C'est plus rapide, c'est plus économique, sauf si on laisse couler longtemps, bien sûr. Mais sinon, on a plusieurs façons de se laver. C'est possible. Mais le bain a une autre fonction. Il n'a pas seulement la fonction de se laver, mais il a aussi la fonction de se détendre. Oui, vous pouvez avoir d'autres opinions, mais c'est à ça que je pensais. Mais souvent, on dit, prends un bain pour se détendre. Donc, on n'y reste pas une minute et on ressort vite fait. Et donc, le bain a une autre fonction. Pourquoi on se détend? Parce que dans le bain, on est enveloppé. C'est comme quand vous avez froid, vous pouvez prendre une couverture pour vous envelopper. Si vous avez vraiment pris froid quelque part, vous avez été dans les travaux, il faisait froid, il y avait de la pluie, de la neige, que sais-je. Au bout d'un moment, pour se réchauffer, un bain chaud, il n'y a rien de mieux, donc parce qu'on est enveloppé complètement. C'est aussi un peu l'idée de l'onction. L'onction du Saint-Esprit, c'est cette manifestation de l'Esprit de Dieu qui fait qu'on peut se sentir enveloppé. L'onction, c'est... Il y a la notion de frotter, comme si vous prenez une crème, que vous l'appliquez, et que vous frottez pour que ça puisse bien pénétrer, ou alors quelque chose qui enveloppe. La Bible nous donne un exemple dans Tite, qui nous parle du bain de la régénération. Dans Tite, au chapitre 3, et au verset 4 et suivant, on peut lire « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Le baptême ou le bain, selon les versions. Le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc Dieu nous a fait spirituellement prendre un bain. Et on peut le refaire souvent d'ailleurs, puisqu'il nous est dit d'être continuellement en train d'être rempli de l'Esprit. Il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur, mais aussi quelque chose qui se produit sur l'extérieur. Il y a aussi une autre façon de prendre un bain, c'est le bain de soleil. D'accord? On dit prendre un bain de soleil. Et on sait que pour que la vitamine D puisse bien être transformée et utilisée dans notre corps, ben nous avons besoin de l'action du soleil. C'est nécessaire. Donc ici, chez les Blancs, en général, on veut prendre des couleurs. Mais le fait est que dans la Bible, il nous est dit qu'il y a une action de l'Esprit de Dieu. C'est dans Malachie, au chapitre 4. Et au verset 2, il nous est dit « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Et dans une autre version, il est dit « et la guérison sera dans ses rayons. Jésus est pour nous le soleil de la justice et il veut manifester cette chose de la résurrection, de la vie de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on prenne le temps de s'exposer à ses rayons. Si on ne le fait pas, rien ne se passera. Si quelqu'un, je disais des gens qui veulent prendre des couleurs, si vous allez une minute, vous rentrez vite fait, vous mettre à l'ombre, vous savez que rien ne se passera. Vous n'aurez pas cette couleur bronzée que vous attendiez. Si vous allez trop longtemps, là vous êtes brûlé, là c'est autre chose. Mais sinon, vous avez besoin de vous exposer. C'est pour ça aussi que beaucoup de choses, on ne peut pas assez en profiter parce qu'on ne s'expose pas assez longtemps. C'est vrai pour le bain et c'est vrai pour le soleil, c'est une réalité. On a, et ça sera ma conclusion, on a aussi un psaume qui nous parle de l'action de Dieu. C'est le psaume 42 qui a quelque chose, je trouve, de très pratique et très quotidien. Et j'aimerais le reprendre encore avec vous. Déjà, certaines choses de Dieu, on ne peut pas les recevoir si on ne les désire pas. Au verset 2, il est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Certains ne reçoivent pas parce qu'ils ne soupirent pas. Ils ne désirent rien de Dieu. Mais là, celui qui écrit le psalmiste, il dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et il le cherche, il dit « Quand irai-je ? Paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Quelqu'un qui expérimentait la supplication, peut-être à cause d'une souffrance. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Ça peut nous rappeler aussi la situation que nous vivons, où peut-être des gens autour de nous nous interpellent en disant « Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il répond pas ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ?» Il y a un rappel. « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Ça veut dire qu'il y a des temps de victoire, il y a des temps on va tous vers Dieu, on expérimente quelque chose de sa part. Et puis il y a des moments où on est des fois seul avec nos doutes, nos incertitudes, nos échecs. Alors de nouveau on est accablé. « Pourquoi t'as battu mon âme ? Pourquoi j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore. » Donc toujours une bonne chose de se parler à soi-même. « Espère en Dieu car je le louerai encore. » Je prends la décision que je le louerai de toute façon. « Mon âme est abattue au-dedans de moi, mais je réagis. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. » Et il se rappelle de quoi ? Ces montagnes. Les montagnes sont essentielles parce que c'est là qu'il y a la neige, et la neige, quand elle fond, elle apporte l'eau qui est nécessaire à la vie des gens. « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. » Il n'est pas juste assis au bord de plage à regarder les vagues, ils vont et viennent. Non, il voit les flots qui viennent et vous aussi, je vous conseille donc d'imaginer et d'expérimenter ces flots de Dieu qui viennent sur vous. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est aussi, il y a une représentation du Saint-Esprit qui est le flot et un flot appelle un autre flot. On ne dit pas la vague est passée, c'est terminé. Non, ça appelle un autre flot. « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Sur moi, ça veut dire je suis maintenant submergé, couvert. Donc, c'est le baptême, c'est le bain. Je suis couvert, je suis rempli, je suis. Les flots sont sur moi. Et il nous est dit « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. » Amen. Et c'est ce que je vous souhaite aussi à tous, hein. Vivre jour et nuit cette présence de Dieu.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.